Ça va toujours ? On va repartir. Vous êtes dos au Lot, la place Lorraine devant vous. On va prendre la rue qui part tout droit, au fond de la place, à gauche de la maison à pan de bois. Il y avait pas mal de commerces par ici.
J'ai connu l'époque, alors déjà en avait la décharge Brangier, c'était toutes les ferrailles, ceux qui travaillaient les métaux. On avait les monuments funéraires à Stéphanello. On avait surtout la granaterie Gruppi, la famille Gruppi, les rugbymen. On avait le marchand de vélo, l'épicier, le bar, le coiffeur, le boulanger, tous les commerçants.
Il y avait Pradi qui faisait les peignes, il y avait Godot qui faisait les chaussures. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait encore ? Mes parents qui avaient un commerce de grains et engrais. Voilà, il y avait encore Taillefer, c'était un commerce de vélo. Ah oui, c'était une petite ville ici.
Je ne sais pas si vous avez vu le nom de la rue qu'on a prise. C'est la rue Albrechtspeak.
Ah, ça, c'est une rue historique. C'est quoi, ça, encore ? Là, vous êtes chez les Gaulois. On n'est pas hier matin. On est chez les Gaulois. Alors, Albrechtspeak, il y a une légende, parmi toutes les légendes, qui dit que le mot Albrechtspeak, ça veut dire épine blanche.
Au niveau du quartier de Saint-Étienne se trouve effectivement un petit hameau qui se nommait Albrechtspeak, dont on conserve simplement la mémoire dans la forme tout à fait particulière de la rue qui porte le nom. Elle est en courbe, c'est la seule de la ville, car elle correspond à ce petit hameau qui était préexistant à la construction de la ville nouvelle.
Tournons à gauche, là. Jetez un coup d'œil au grand bâtiment qu'on longe à notre droite. Vous sentez ?
Oui, ici, rive gauche, ça sent le crottin. Pourquoi ça sent le crottin à rive gauche ? Ben, ça sent le crottin parce qu'il y a des chevaux.
Les haras, c'était pour la reproduction de la race.
Le rôle des haras, c'était de conserver évidemment les races et de pouvoir noter systématiquement évidemment toutes les naissances et tout ce qui se passe pour une race particulière.
Oui, ils étaient magnifiques ces chevaux-là. Il y en a encore quelques-uns, enfin, pas comme avant. Ah, mais ça a marché pendant des années, ça. Et alors, tous les matins à Villeneuve, il y avait le défilé des étalons dans les rues de Villeneuve, les palefreniers sur les chevaux. Alors, Ploc avait ces étalons, ils sont énormes, là, c'est des percherons. Et alors, quand ils passaient devant les maisons, quand ils faisaient leur crotte, il y avait les petites vieilles qui sortaient avec une pelle, avec une balayette, elles ramassaient le crottin pour mettre sur leurs fleurs. Moi, je l'ai vu faire, ça. C'était des monstres, surtout quand on est petit, quand on est gosse, qu'on voit passer ça, ça faisait peur.
Alors moi j'étais très impressionné parce que ce sont des animaux énormes et qui souvent, le caractère des étalons, c'était très nerveux. Et alors quand ils partaient en travers et qu'ils faisaient des... Je me rappelle même qu'avec les fers des sabots, il y avait des étincelles qui jaillissaient, c'était impressionnant.
On arrive devant la porte des haras. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à mettre pause pour aller y jeter un œil. Comme vous l'avez entendu, ces bâtiments n'abritent plus de chevaux. Ils servent aujourd'hui de locaux à des services de l'agglomération, ainsi qu'à un centre de santé. De notre côté, continuons à longer le bâtiment. Le paysage a changé ici aussi.
C'était pas du tout comme ça. Tout ça, c'était pas une place.
Il y avait de vieilles maisons, toutes délabrées, toutes pourries. Et au milieu de ces maisons, il y avait un gars qui récupérait les ferrailles, qui récupérait les peaux de lapin. La campagne autrefois, on utilisait beaucoup les peaux de lapin, et qui installait tout ça là.
C'était des grands bâtiments de Brangier et Barbès.
Donc il est parti du quartier, il s'est installé à la campagne, et du coup tout cet espace-là, ici, s'est trouvé libéré. Alors, les immeubles que vous avez en face là-bas n'existaient pas. Et maintenant, vous avez un passage avec un débouché sur la rue de Pujol.
Eh bien, on va l'emprunter. Il est au milieu des immeubles qui nous font face, légèrement à gauche, en dessous d'un pan de façade en briques. Rendez-vous au bout.
Il y avait un personnage qui s'appelait Marie Poubelle. Alors, c'était un personnage dont on disait qu'il couchait dans les plumes. Les jours de marché, on la voyait traîner ses cartons qu'elle attachait les uns derrière les autres et qu'elle attachait à son solex. Et elle tirait le solex et puis il y avait les cartons qui suivaient les uns derrière les autres comme un petit train. Et on disait d'elle qu'elle avait des appartements sur Agen et qu'elle allait toucher ses loyers avec son solex, qu'elle faisait l'aller-retour. Mais est-ce que c'est vrai ? Et que le magot était dans les vieux duvets de plumes qui étaient stockés là où elle logeait misérablement.
Stop ! Jetez un coup d'œil sur votre droite. Vous voyez le café là-bas ?
À l'angle de, on appelle ça le coin de Gaillou, il y a un café. Quand il y avait des choses, la ville voulait faire savoir quelque chose, il y avait le garde champêtre avec un tambour qui arrivait, puis il annonçait, avise à la population, enfin bon... c'était classique, quoi, quand il y avait une nouvelle à annoncer.
Allez, on descend la rue de Pujol en direction du pont.
J'ai connu aussi, quelquefois le dimanche, on entendait tut-tut-tut-tut une trompette. Alors ma grand-mère me disait, allez, lève-toi, c'est l'arcachonnaise. Alors c'était une femme d'Arcachon qui arrivait habillée en arcachonnaise. Elle avait des paniers, elle vendait des sardines. Alors ça dépendait de la saison. Ça, c'est l'arcachonnaise. Cette rue de Pujol, c'est toute mon enfance, quoi. Je suis né là, donc... J'allais à l'école qu'il y a sur le boulevard qui s'appelle l'école Paul Bert, où j'ai fait toute ma scolarité, jusqu'au certificat d'études. Et c'était vraiment un quartier très animé par rapport à maintenant, qui est un peu désert. Il y avait de toutes sortes de commerces, toutes sortes d'activités.
C'est vrai que cette rue de Pujol, malheureusement, elle est un peu abandonnée. Moi, je l'ai connue très, très dynamique. Donc, il y avait un fleuriste, il y avait un boulanger... Il y avait une petite supérette, il y avait un encadreur aussi, un très très bon encadreur, il y avait pas mal d'activités. Voilà.
Vous voyez le passage clouté, celui de la rue de Pujol avant le pont ? Prenons-le pour nous engager dans la rue de l'Écluse.
La rue de l'Écluse, tout le long là, il y en a une bonne partie, sont revenus des maisons cossues, autrefois c'était des maisons de pauvres.
C'était la rue malfamée, là il y avait des usines. Une usine alimentaire, une conserverie.
Les conserveries, c'était petits pois, haricots verts, tomates et céleri. Tout ça, c'était la production de la campagne environnante.
Le haricot vert, c'était énorme. On faisait venir des gens pour ramasser parce que c'est très pénible. Et il faut le dire, à une époque, les gens qui étaient dans les camps trouvaient beaucoup de travaux. Et quand les Vietnamiens sont arrivés, on voyait des gens dans les champs de haricots verts avec le fameux chapeau qui ressemble à un coquillage d'ailleurs. C'était des gens qui ramassaient les haricots verts pour les conserveries. Alors les gens de Villeneuve allaient prendre des sacs de haricots pour équeuter les haricots.
Ah mais j'en ai équeuté quelques haricots aussi, éclominés. Quand on était petit, vous voulez de l'argent et les haricots. On se levait à 7h du matin et on allait chercher les sacs d'haricots verts pour les équeuter. Je ne me rappelle plus combien ils donnaient, 2 sous, 3 sous par kilo. Donc chacun avait son truc. Il y en a qui équetaient deux à la fois. Et on faisait celui qui allait le plus vite, mais ça y allait.
Avec ça, moi je me suis payé une mobilette. C'était vraiment la tradition. Et alors vous passiez dans les rues de Villeneuve, on voyait les gens assis devant leur porte avec un sac de haricots verts. Et
on était payé au kilo. Il fallait ramener les queues. Parce qu'au cas où on en aurait volé, vous comprenez, tout le monde en faisait. Pour la rentrée des classes, puisque c'était l'été qu'on faisait ça. On pouvait acheter nos cahiers, nos livres et tout ça. Il n'y avait jamais de vacances, mon Dieu. Et dans la journée, on en faisait jusqu'à 300, 400 kilos, nous. Parce que j'étais pas la seule, hein. J'étais pas la seule, on était 5 filles, hein. Il fallait travailler tout.
La prochaine sur votre droite vous mènera place d'Aquitaine, où le mercredi se tient un marché bio. Du coup, là, deux possibilités. Si vous choisissez d'y passer, histoire d'en savoir plus sur le bio dans le département, laissez le son se dérouler et tournez à droite à la prochaine. Si vous préférez continuer dans la rue de l'Écluse, passez la piste suivante. On va au marché du coup ? Tournons à droite, dans la rue d'Eltrel.
En 1975 a été créé le premier marché bio d'extérieur de France, à Villeneuve-sur-Lot. Donc cette année, on a fêté les 40 ans du marché bio. Et ce marché perdure toujours, là. Hein, tous les mercredis, vous pouvez venir au marché bio. Voilà. Je suis Isabelle Pozer, installée donc à Pujol, en maraîchage, depuis 1977. Nous sommes ici, en bio. Nous vivons sur 2,16 hectares. Ce qui est très peu, et même certains diront que c'est pas viable, mais la preuve, c'est qu'on a réussi à vivre depuis et élever nos 5 enfants. Voilà.
Vous irez vous accouder à la rambarde métallique, face à la halle. Le bio semble important dans le Lot-et-Garonne.
Nous, au départ, je pense qu'on était dans, quand ça a débuté, certainement le département où il y en avait le plus. Mais bizarrement, il y a des départements qui se sont plus motivés pour ça après. Voilà. On n'a pas le département avec le plus de superficie ni de producteurs, mais enfin, il y en a quand même pas mal. Hein.
Oh, bah, c'est pas parce qu'il y a plus de bio qui représente surtout des légumes et puis quelques producteurs de céréales. Hein. Mais non, mais ça reste que comme partout en France, hein, ça reste des pesticides, surtout avec un syndicat qui est la Coordination Rurale, qui tient la Chambre d'Agriculture et qui prône tout ça. Enfin, ils les prônent pas, mais ils disent non, on peut plus travailler si on n'a pas ça, voilà.
Le Lot-et-Garonne est un des départements de France où s'est développé le plus tôt l'agriculture biologique dans les années 70. Mais il y a eu un phénomène important d'installation de jeunes producteurs en provenance de Hollande, où la terre était très chère et difficile d'accès pour des gens qui avaient envie, en Hollande comme en France, de revenir à l'agriculture.
Figurez-vous que mon mari et son frère à Saint-Aubin, ils ont commencé le bio en 61. On les prenait pour des hurluberlus à l'époque. C'était encore le balbutiement de la bio. Pourquoi le bio? Alors ben, moi je dis qu'il faut garder la terre propre pour les générations à venir. Pour moi, c'est naturel, disons. Voilà. La nature, je la trouve formidable, fantastique. On peut nourrir les hommes, vous voyez, sur 2 hectares. Si on avait fait le calcul de tout ce qu'on a sorti comme légumes depuis 40 ans, mais on peut vraiment, avec une petite surface, on peut quand même nourrir énormément de gens, quoi.
Le marché, c'est un endroit où on peut payer en abeilles. L'abeille, c'est la monnaie locale qui a cours dans le Villeneuvois.
Alors, pourquoi une monnaie locale? Parce que nous avons réalisé que cette monnaie pouvait contribuer à redynamiser le commerce local, créer des liens, favoriser les circuits courts, etc.
Nous avons souhaité redonner à la monnaie son vrai sens, qui est simplement un moyen d'échange. Nous sommes tous conscients, au jour d'aujourd'hui, que la monnaie devient une priorité, disons, au niveau circulation mondiale, bien sûr. Elle devient avant tout spéculation, au lieu de représenter simplement échange entre une production, une création, et ensuite un consommateur. N'importe quelle entreprise ne va pas rentrer dans le circuit de cette monnaie locale.
C'est-à-dire que dans ce réseau, on consomme ce qui est produit localement, avec grande qualité, pas n'importe comment. Et ainsi, on favorise les producteurs qui vont vers la qualité, aussi bien de leurs produits que la qualité au niveau des relations humaines. Nous terminons l'année là, avec 140 prestataires, qui sont donc des producteurs, des commerçants, des artisans, des thérapeutes. Nous avons aussi des associations qui ont adhéré.
Il y a des comptoirs d'échange qui sont répartis un petit peu sur tout le circuit, hein, disons, de l'abeille. 1 euro est égal à 1 abeille. Voilà. Alors donc, le consommateur va venir échanger des euros contre des abeilles. Et ensuite, avec ces abeilles, il va pouvoir faire ses achats.
Allez. Retournons d'où l'on vient. On repart rue d'Eltrel et vous irez m'attendre à l'angle de la rue de l'Écluse.